Bon, on va commencer. Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette troisième conférence de psychologie clinique. Conférence que j'ai intitulée « Danger du cybernarcissisme, enjeu de la subjectivité online ». Alors, ce titre date de l'année dernière quand avec mes collègues psychologues on s'est regroupé pour essayer de trouver des thèmes, pour essayer de se caler sur la thématique générale de l'année qui était les liaisons dangereuses. Et puis donc là l'idée c'était d'essayer de parler de la question du lien parfois particulier entre les questions de subjectivité et puis la manière dont ça se déploie sur l'espace internet. Donc c'était ce titre, c'est un peu un titre formule, on est presque plus dans le marketing que dans dans quelque chose d'une forme de sérieux. Mais disons que ce que je me proposais de faire ce soir pendant cette heure de présentation, c'était de poursuivre un petit peu le travail que j'ai commencé ces dernières années autour de, on peut dire, l'exploration de la question du moi dans le contexte contemporain. Voilà, par exemple, l'an dernier, la thématique était sur les crises, donc ça s'y prêtait bien. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu aborder la question de l'environnement, qui est une espèce de concept un petit peu fourre-tout qu'on trouve en psychologie pour parler de tout ce qui est le non-moi, finalement. Et l'environnement, dans sa dimension finalement technique et technologique au service du relationnel. C'est-à-dire que habituellement, quand on parle d'environnement relationnel, notamment, on parle souvent des relations précoces, du bébé avec ses parents, du bébé avec son entourage proche. Là, j'ai essayé d'élargir un petit peu cette question d'environnement pour traiter un petit peu la question de qu'est-ce que les progrès techniques, l'environnement technologique, qu'est-ce que ça change. Voilà, finalement, d'un point de vue génétique, on n'est pas très différent a priori de nos ancêtres de l'âge du bronze, mais par contre en termes de technique et donc de la manière dont on peut avoir une relation dans le monde extérieur et la manière dont on peut utiliser ces techniques pour échanger entre nous, là il y a quand même eu des différences qui ont forcément des effets assez importants. Donc, je vous dis tout de suite, l'exposé sera pas exhaustif. On peut pas faire le tour d'une question pareille en l'espace d'une heure. Et je pense que vous aurez sans doute beaucoup de questions, peut-être beaucoup d'éléments à ajouter à l'issue de ce que je vais vous présenter. Donc, c'est une présentation qui a pour objectif l'ouverture d'une discussion. Je n'ai pas forcément bien l'idée de combien de temps ça va durer. Je vais essayer de respecter le canon de l'université populaire, d'une heure de présentation, une heure de discussion. On verra bien. Mais je pense que ça devrait à peu près aller. Donc, avant de partir sur la question de l'environnement technique et technologique, je voulais refaire un petit peu une présentation psychanalytique de certains concepts freudiens pour permettre d'expliciter certains mots qui sont un peu passés dans le vocabulaire courant mais qui sont pas forcément, dont la signification exacte est pas toujours évidente. Donc on va commencer rapidement par évoquer les fameuses topiques freudiennes. Donc la première, c'est conscient, préconscient, inconscient. Donc Freud il n'a pas inventé l'inconscient. C'est quelque chose qui était quand même déjà dans l'air du temps depuis quelques décennies quand il a travaillé dessus, notamment quand il a travaillé auprès de Charcot sur l'hypnose. Enfin, je veux dire. il y a des prédécesseurs. Donc lui, il a introduit cette première topic qui permet de travailler en articulation sur la question de la conscience. Donc la conscience, c'est ce que vous avez à l'esprit à un moment T, préconscient, c'est ce que vous pouvez, c'est la mémoire disponible que vous pouvez convoquer assez facilement. Si je vous demande ce que vous avez mangé hier, a priori, vous devrez pouvoir vous en rappeler rapidement. Et puis, il y a la question de l'inconscient. Et donc, l'inconscient, selon Freud, à cette époque-là, c'est tout ce qui est censuré de la conscience, tout ce qui est refoulé. Voilà, donc il introduit la question de la censure et du refoulement. Donc l'idée, c'est que tout ce qui vient déranger l'appareil psychique va être refoulé dans l'inconscient parce que la psyché fonctionne selon le principe du plaisir. Voilà, donc c'est l'idée de départ. Donc cette topic va fonctionner un certain temps, et puis à l'issue de la Première Guerre mondiale, il va se rendre compte que ce modèle n'est pas faux, mais il est insuffisant pour décrire certaines situations, et notamment pour pouvoir faire une description de ce qu'on va appeler la conflictualité intra-psychique. Donc, il va y avoir donc au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire il va se rendre compte que le principe de plaisir n'est pas suffisant pour décrire le fonctionnement psychique. C'est là qu'il va introduire la question de la contrainte de répétition, c'est-à-dire que la psyché va aller se mettre de manière répétitive dans des situations de déplaisir. Et donc ça colle pas avec son premier schéma. Donc il va devoir retravailler un petit peu la question. Et donc en 1923, il va publier un ouvrage qui s'appelle Le Moi et le Ça. Et donc il va introduire sa deuxième topic, qui va être un petit peu la base de mon exposé. Donc la deuxième topic, c'est le Moi, le Ça, le surmoi, et puis l'idéal du moi, qu'on oublie souvent d'évoquer. Donc, pour schématiser, donc le ça, c'est la psyché primordiale, c'est le réservoir des pulsions, c'est la psyché qui va s'appuyer sur les instincts d'autoconservation, les instincts sexuels, toutes ces dimensions-là, et puis toutes ces pulsions qui nous poussent à nous mettre un peu en contact avec les autres. Et donc le ça, c'est une psyché qui est complètement brute, qui est une psyché qui est un peu à éduquer, et surtout c'est une psyché qui, dans un premier temps, au niveau après la naissance, connaît pas encore bien ses limites, et donc du coup en contact avec cet environnement extérieur que j'évoquais. Alors la question de l'environnement, c'est un concept un petit peu flou, mais enfin disons que par les premières relations d'objets entre le petit sujet et puis les personnes qui sont autour de lui, qui vont s'occuper de lui, qui vont lui permettre de penser le monde, de le comprendre, c'est-à-dire qu'ils vont leur prêter leur appareil psychique, leur appareil à penser, pour essayer de au sujet de faire advenir le moi. Voilà. Donc le moi, c'est un... On peut dire que c'est des développements qui ont eu lieu bien plus tard, à l'époque d'Anzieux, mais je trouve que l'image est plutôt bonne. J'en avais fait une présentation il y a quelques années sur le moi peau. On peut dire que le moi est un... Une de ses caractéristiques, en tout cas, c'est d'être la limite que le sujet se fait dans sa propre représentation, sa limite. Dire à quel endroit c'est le moi, à quel endroit c'est plus moi, c'est non moi. Donc là, je peux vous reparler de ce que Jean-Baptiste Devaux évoquait il y a deux semaines, pour ceux qui étaient présents, c'est-à-dire que le sujet, au départ, On peut dire qu'il n'est pas très bien différencié de sa mère. Enfin, on dit de sa mère, c'est générique. On va dire là, ça peut être le père, la nourrice, la tante, peu importe. Et donc, cette différenciation se fait par l'absence. C'est-à-dire que, grosso modo, dans un premier temps, le sujet n'est pas bien différencié. Il a des vécus qui sont souvent des vécus difficiles, des vécus de faim qui lui font mal. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un sein ou un biberon qui arrive et qui vient lui soulager cette douleur. Donc voilà, principe du plaisir qui est comprise surtout comme absence de déplaisir finalement. Essayer d'aller vers quelque chose qui serait une absence de déplaisir. Et donc petit à petit, le sujet va forcément être, dans un premier temps, on peut dire que le petit sujet, le bébé, fantasme qu'il est lui-même la source de ce comblement finalement. Donc il y a un vécu de toute puissance qu'on appellera le moi idéal. Le moi idéal n'est pas l'idéal du moi, c'est pas la même chose, donc je vous expliquerai la différence entre les deux. Donc le moi idéal, c'est un moi infantile, c'est un moi qui est tout puissant. Voilà. C'est quelque chose de un vécu primordial comme ça, où le sujet n'a pas encore fait bien la différence, donc tous les objets qui viennent à lui pour le contenter, s'occuper de lui, etc., il les vit un peu comme des extensions de lui-même, et du coup il fait pas forcément bien la différence, jusqu'à ce que ben petit à petit les expériences se répètent, et puis il attend un peu plus longtemps, et voilà. Et petit à petit il finit par prendre conscience que l'objet est un objet, c'est-à-dire quelque chose qui est jeté en dehors, qui ne fait pas partie de lui-même. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une formule de Mélanie Klein qui dit « l'objet naît dans la haine », c'est-à-dire que c'est dans ce vécu de rage un peu primitive que le sujet a un début de prise de conscience qu'il n'est pas celui qui s'auto-alimente, qui s'auto-guérit et qui s'occupe de son propre cas, quoi, voilà. Donc le ça, le moi, donc le moi, je l'ai décrit comme une limite que le sujet se fait de lui-même, c'est-à-dire que il comprend qu'à partir d'un certain seuil, c'est plus lui et que ça dépend plus de lui. Et puis il y a aussi un autre élément important. Le moi, c'est une instance de régulation des conflits. Alors, dans un premier temps, c'est un peu un conflit entre le ça et l'environnement direct. Et puis, petit à petit, il va y avoir des phénomènes d'introjection psychique, c'est-à-dire que la psyché va intégrer des choses qui viennent de l'environnement en elle-même. Et c'est de cette manière que le surmoi et l'idéal du moi vont apparaître dans la psyché. Pour faire un court, pour faire un schématique, le surmoi représente la conscience morale, représente l'ensemble des interdits qui sont énoncés par les parents, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que à chaque fois que la volonté de toute puissance du sujet est un petit peu contrecarré par des interdits, par des limites. Donc on parle d'énoncés parentaux, donc par la parole. Je pense qu'on peut largement étendre cette idée à d'autres choses que des énoncés verbaux. Hein. C'est pour ça que un petit enfant a tendance à lui taper sur les doigts pour qu'il fasse pas quelque chose. C'est parce que ça s'inscrit aussi dans son corps et que ça lui permet d'avoir aussi une représentation et de lier des événements entre eux et donc de, on va dire, un événement qu'il le tentait avec quelque chose de désagréable. Enfin, c'est presque pavlovien d'une certaine manière à ça, aussi à cet endroit-là, pas seulement mais aussi. Donc le surmoi, c'est quelque chose qui est interdicteur. Donc à l'époque de Freud, la pathologie dont on parlait beaucoup, c'était quand même la névrose. Et la névrose, c'était que, typiquement des patients qui souffraient de leur surmoi, c'est-à-dire que ils avaient des désirs que l'environnement social ne leur permettait pas d'assouvir et qui du coup devaient trouver une voie de dérivation et que ça amenait la création d'un symptôme. Voilà. Donc le surmoi, ça concerne l'interdit, et donc l'idéal du moi, ça concerne l'idéal. Donc le moi idéal, vous avez compris, c'est une psyché toute puissante, infantile, un vécu où le sujet se croit un petit peu complètement irrésistible, tout puissant. L'idéal du moi, c'est quelque chose qui va venir des objets extérieurs, des parents, pour faire dans la théorie classique, mais ça peut venir aussi d'ailleurs. C'est tout ce que le sujet va intégrer des désirs parentaux à son égard, grosso modo. C'est mon fils, tu seras notaire, voilà. Pour faire une image un petit peu typique, l'enfant qui va s'approprier un désir parental et qui du coup va inconsciemment, parce que ce sont des choses qui ont une dimension consciente mais qui ont aussi une large dimension inconsciente, qui finalement guide le sujet dans ses comportements de façon très importante. Donc, la question que j'avais commencé à travailler l'an dernier, c'était l'environnement social. Qu'est-ce qui vient convoquer, finalement? Est-ce qui vient nous convoquer au niveau de, surtout de notre surmoi, finalement, comme à l'époque de Freud? C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, je vais prendre des situations un petit peu standards, mais, la jeune fille, etc., peut désirer son oncle ou son grand frère, etc. Non. La conscience sociale, d'une certaine manière, l'ordre moral ne le permet pas. Du coup, si ce désir est très profondément ancré, etc., ben, il peut se trouver une voie de dérivation dans une forme de symptôme. Alors à l'époque c'était de l'hystérie, c'était de la névrose obsessionnelle. Bon, ce sont des pathologies qu'on rencontre moins systématiquement aujourd'hui qu'à une certaine époque. Pourquoi ? Mais parce que l'environnement social depuis l'époque de Freud est quand même plus le même. C'est quelque chose qui a quand même largement évolué. L'environnement social, donc c'est des choses que j'avais évoquées un petit peu l'année dernière, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Quelles sont les valeurs qu'il nous enjoint de suivre? C'est plutôt déjà une forme d'individualisme important, c'est-à-dire que le sujet doit quand même penser à lui-même, doit penser à son épanouissement personnel, il y a quand même un culte de la performance. Qui est quand même dans l'environnement social ambiant. C'est une société qui est quand même beaucoup axée sur les plaisirs, sur les loisirs. Une société de consommation où on est quand même régulièrement convoqué du côté de notre oralité. Donc là, ça envoie au premier stade qu'a décrit Freud, le stade oral, qui consiste en la période où le nourrisson cherche à dévorer un petit peu le monde, d'une certaine manière à se l'approprier en l'intégrant, en l'ingérant. C'est vrai que la consommation, c'est quelque chose qui vient quand même nous convoquer de ce côté-là. Ça va ensemble avec une société qu'on peut dire une société d'abondance, c'est-à-dire ce qui s'accompagne d'une intolérance à la frustration, on peut dire quand même globalement. Une société où je pense que personne ici n'a connu la disette ou la famine. Voilà, on est plutôt du genre à aller dans un supermarché et puis quand le produit qu'on veut acheter, le rayon est vide, on a plutôt un petit vécu de frustration. Voilà, on est plutôt dans ce cadre-là plutôt que de se poser la question de savoir ce qu'on va pouvoir manger le lendemain, même si il y a des gens pour lesquels c'est difficile, mais c'est pas faute de matière première, c'est C'est plus une question d'organisation sociale. Bref, ce que je veux pointer en décrivant tout ça, c'est que finalement notre environnement social vient plutôt nous convoquer du côté de ce moi idéal, de cette toute-puissance infantile, de ce ça, de ces pulsions qui réclament que d'une chose, c'est d'être assouvi. Et que du coup, finalement, depuis 68, il est interdit d'interdire, etc., même s'il y a certains endroits où les interdits restent. Mais enfin, globalement, on peut dire qu'il y a quand même des interdits moins présents qu'il y a un siècle dans l'époque viennoise, à l'époque victorienne de Freud. Le modèle de société n'est pas le même. Donc c'est... Si ce genre de questionnement vous intéresse, je vous recommande la lecture du livre d'Alain Ehrenberg, La fatigue d'être soi, qui vous explique qu'on est passé finalement d'une société de l'interdit, finalement, où les gens étaient malades de l'interdit, donc la pathologie reine, c'était la névrose, les gens qui souffraient de leur surmoi, et qu'aujourd'hui, la pathologie reine, c'est plutôt la dépression. C'est plutôt des gens qui se sont forgés des idéaux avec lesquels ils ne sont pas en phase, ils ne se sentent pas à la hauteur, et donc du coup il y a des effondrements dépressifs. On peut aussi, il y a la dépression, mais on peut aussi évoquer les états limites, on peut évoquer les problèmes d'addiction. Donc ces gens qui ressentent un vide intérieur et puis qui vont combler en travaillant, en ayant cherché systématiquement des quêtes de sensations, que ce soit par des produits psychoactifs, mais aussi par certains comportements, des addictions au jeu, des addictions à Internet, d'une certaine manière, aux jeux vidéo, ce genre de choses, ça existe aussi. Et donc, et puis je parlais aussi des états limites, on peut y inclure des questions comme la psychopathie, qui est une forme d'état limite où le sujet finalement est insuffisamment construit en termes d'interdiction, en termes presque de bridage de ses pulsions. Et donc, du coup, ce sont des gens qui sont à fleur de peau et qui, voilà, ça rejoint la question du moi peau que j'évoquais tout à l'heure, donc des gens pour qui le moi, comme leur peau finalement, est insuffisamment protectrice et qui du coup, à la moindre frustration, à la moindre contrariété, vont trouver une voie de dégagement dans le passage à l'acte qui vient court-circuiter les processus de pensée. Voilà. La psychopathie, ce sont des gens qui dont les comportements agressifs viennent court-circuiter les processus de pensée. On peut résumer ça comme ça à peu près. Donc je peux maintenant m'intéresser peut-être plus à la question de l'environnement technique. Est-ce qu'on va se rendre compte que cet environnement technique, il vient quand même redoubler un certain nombre d'enjeux qui sont quand même en lien avec cet environnement social et tout ce que je viens de décrire. Donc, première chose, je pense qu'on peut parler de tous ces objets qui nous accompagnent, qui sont des prothèses du moi, finalement. C'est-à-dire, chacun ou presque a son téléphone portable, à son différents gadgets, différents joujoux, qui d'une part sont très pratiques, etc., mais dans lesquels on va investir, on va projeter une part de nous-mêmes, ce qui fait que petit à petit, on va l'intégrer à nous-mêmes. On va finir par se dire... si ce truc-là ne marche pas, il me manque quelque chose qui m'appartient, qui fait partie de mon fonctionnement normal. On peut dire ça comme ça. Enfin, on pourrait parler, je parlais de la rupture de stock dans le supermarché, on peut parler de la rupture de réseau quand on est en montagne avec son téléphone ou je sais pas quoi. on peut plus entrer en communication ou la rupture du réseau internet à la maison. On s'est tellement habitué à fonctionner avec ça que d'une certaine manière on se sent castré de quelque chose. Voilà, la question de la castration chez Freud, c'est ça, c'est quelque chose qui vient nous être un petit peu arraché. Donc ces prothèses sont importantes, elles ont aussi des dimensions supplétives. Un exemple bête, c'est la question du répertoire téléphonique. Je pense que tous ceux qui ont connu l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable, vous aviez en tête un certain nombre de numéros de téléphone parce que à chaque fois que vous téléphoniez, il fallait les composer entièrement. Et puis, d'une certaine manière, voilà, il y a une partie de votre répertoire qui était intégrée. Depuis qu'il y a des... Alors, il y avait aussi des répertoires papier qui venaient compléter parce qu'on ne pouvait pas forcément se souvenir de tout. Mais aujourd'hui, voilà, tout est numérisé sur nos machines. Du coup, ce qui fait qu'il n'y a presque personne qui connaît les numéros de téléphone par cœur aujourd'hui. On peut dire ça comme ça, quand même. Donc du coup, il y a une dimension de notre psyché, donc de notre mémoire, qui a été délocalisée dans une sorte de prothèse, comme ça, et puis si la prothèse est en panne, eh ben, il nous manque quelque chose. Voilà. C'est un exemple, mais qui peut se décliner de X façons. Sur la question du réseau internet, alors là on a quelque chose qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que finalement c'est une espèce de monde parallèle qui a été créé avec une espèce de porte qui nous permettent d'y entrer. En fait, c'est notre ordinateur, notre téléphone portable, qui est plutôt un ordinateur, enfin voilà. Et donc, où qu'on soit, on est en mesure de se connecter à ce réseau. Donc, d'une certaine manière, ça vient redoubler un petit peu cette question un peu de la toute-puissance. On se retrouve en possibilité d'être en contact avec le monde entier, où qu'on soit, à condition qu'il y ait du réseau et que ça marche, bien sûr. Mais voilà, c'est pour vous dire que notre rapport au monde, notre être au monde, s'en trouve quand même modifié. Il y a des exemples typiques, je ne sais pas, vous assistez à un beau coucher de soleil ou un bel orage. Il y a quelques siècles, vous viviez le moment assez pleinement, vous le contempliez, vous le mémorisiez, et puis si vous aviez envie de le communiquer à quelqu'un, ça devait passer par des mots ou alors par des talents de peintre ou des choses comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On sort le téléphone, on prend la photo, on l'envoie directement sur Facebook ou je sais pas quoi, et du coup, on se retrouve dans une relation au monde et un rapport à l'événement, c'est de la phénoménologie d'une certaine manière, qui n'est pas tout à fait le même. On se retrouve La question de la solitude n'est plus vraiment la même, parce que d'une certaine manière, on est, grâce à ces outils-là, on est toujours en lien avec potentiellement avec les gens, d'une certaine manière. Et ça commence finalement assez tôt. Je me faisais cette réflexion il y a quelques jours. Je disais tout à l'heure que l'objet naît dans la haine. C'est-à-dire que un bébé, pour faire l'expérience de l'extériorité de l'objet, a besoin de faire l'expérience de manière un petit peu répétée, d'attendre un petit peu avant d'avoir satisfaction, des choses comme ça. Une des inventions récentes, c'est le babyphone, par exemple. Vous mettez un micro dans la chambre du bébé, une enceinte dans votre salon, vous êtes à côté, la moindre réaction de l'enfant, vous pouvez réagir dans les 30 secondes d'une certaine manière. Il n'y a pas forcément ce temps de je l'oublie, je ne veux pas l'entendre tout de suite, et puis au bout de 5 minutes, ah oui, il me semble que ça pleure. Bon, hop, tout de suite, vous ne pouvez pas vous dérober, et du coup, bah, c'est vrai que l'enfant, il fait peut-être pas tout à fait la même expérience que sans cet objet-là. C'est juste après, je pense qu'il y a, pour l'instant, il n'y a eu aucune étude statistique pour montrer que c'était néfaste. Je pense pas. De toute façon, les expériences qui ne peuvent pas se faire à un endroit se feront autrement, probablement. Mais bon, c'est une manière de pointer que bah, tous ces petits progrès, bah, ça change notre rapport au monde, ça change nos expériences d'une manière soit marginale, soit de manière relativement importante. Ce qui peut se jouer, c'est qu'on se retrouve toujours en lien avec l'autre. C'est-à-dire que qui comme moi, par exemple, ont été adolescents avant l'émergence des téléphones portables, bon, bah, on partait l'après-midi, on passait un certain nombre d'heures loin de chez soi. Et puis on revenait, on avait d'une certaine manière une vraie liberté, on revenait quand on voulait, bon, on devait peut-être rendre des comptes si on était en retard éventuellement, mais on n'avait pas cet objet qui nous mettait d'une certaine manière en lien immédiat avec les angoisses des parents par exemple. Enfin, c'est un exemple assez banal, mais d'une certaine manière, on se rend compte, je veux dire, qu'on soit d'un côté du téléphone ou de l'autre, que l'absence de réponse n'est pas normale, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si j'appelle quelqu'un qui ne répond pas, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il puisse répondre, tout de suite ça fait des montées d'angoisse. On dit il y a quelque chose qui ne va pas, il est peut-être arrivé quelque chose. Enfin, voilà, on se rend compte là que entre, je sais pas, bah, l'époque des grands voyageurs, des grandes découvertes où les gens partaient des mois sans donner de nouvelles, et puis aujourd'hui on peut être en contact quotidien de n'importe où, n'importe quel point de la planète. Bon, bah, on se rend compte que c'est pas le même rapport à l'absence. Du coup, c'est peut-être pas le même rapport avec l'intériorisation de l'objet, l'intériorisation des personnes qu'on ne voit pas, parce qu'on est potentiellement toujours en lien avec, quoi. Enfin, quelques éléments sur l'environnement Internet, c'est-à-dire ce fameux monde parallèle qui abolit les distances, on peut dire que c'est un monde qui à la fois est séduisant, c'est-à-dire que tout est entrepris pour nous y attirer, pour nous inciter à y rester le plus de temps possible. C'est un monde qui est, dans la fantasmatique, en tout cas dans l'imaginaire, qui est omniscient, qui est omnipotent, d'une certaine manière. Voilà, une des choses qui a changé, c'est qu'il y a eu une époque, on ne savait plus telle chose. Du coup, on était obligé de se creuser les méninges pour essayer de le retrouver, etc. Aujourd'hui, on sort le smartphone, petite recherche, et puis on a tout de suite toutes nos réponses, quoi, d'une certaine manière. Enfin, du coup, on n'a peut-être pas la même relation à l'apprentissage, à la mémoire, à l'oubli, puisque d'une certaine manière, on a à disposition une porte ouverte vers quelque chose qui parle à notre toute puissance infantile, quoi, notre fameux moi idéal, comme ça, qui s'imaginait avoir réponse à tout, être à la fois être sa propre mère d'une certaine manière. Bon, on a comme ça donc des objets qui viennent nous, malgré nous, comme ça, nous conforter dans certains idéaux inconscients comme ça qu'on a intégrés et puis qui ne nous quittent complètement jamais. Concernant les donc les sujets contemporains que nous sommes tous, dont je fais partie, ce que je définissais, c'est que ce sont des, on est tous un peu en situation de dépendance finalement. On se retrouve à, on se retrouve comme ça dans des situations où on oscille en fait entre un vécu d'impuissance et de toute puissance finalement, comme le fameux moi idéal. Parce que le moi idéal, c'est une subjectivité archaïque où le sujet qui est pourtant en situation de dépendance totale se croit tout puissant. D'une certaine manière, on retrouve un petit peu de ça, parce que on se retrouve quand même conditionné dès le plus jeune âge à exiger quand même une satisfaction quasi immédiate, une grande partie de nos désirs. On est donc voilà, particulièrement sensible à la question de l'inflation du moi, de l'augmentation de la puissance du moi. C'est-à-dire tout ce que, chaque fois qu'on va pouvoir trouver un objet qui va nous donner des possibilités supplémentaires, on n'y résiste pas très longtemps. Et au départ, il y a une dimension de nouveauté où, d'une certaine manière, on est encore différencié de cet objet-là. On se dit, ouais, c'est formidable, etc. Mais puis, petit à petit, on s'habitue, on s'accoutume et on finit par intégrer cette puissance-là à notre fonctionnement habituel. Ce qui fait que si le jour où elle nous est retirée, ben, on se retrouve dans des situations de détresse qui sont quand même assez, assez archaïques à certains égards. Ça me fait penser quelque chose qui vient un peu illustrer cette question de la toute-puissance et de l'impuissance qui sont un petit peu combinées. C'est des figures qui sont assez présentes et de plus en plus présentes, je trouve, dans l'imaginaire social, quelque chose qui nous vient des États-Unis. C'est la question des super-héros. Les super-héros sont souvent des personnages complexés, honteux, parfois même assez minables dans le civil, et puis, voilà, ils développent des super-pouvoirs à côté de ça, ou qui les rendent absolument tout-puissants. Et du coup, et c'est vrai qu'on se rend compte que ce sont des figures qui parlent quand même beaucoup à l'imaginaire collectif. Donc sur la question de certaines propriétés de l'environnement numérique, donc toujours finalement dans cette idée-là d'une idée de toute puissance, on se retrouve habitué avec la question du numérique, avec des objets qui nous mettent en situation de pouvoir faire des choses qui sont impossibles dans le monde réel. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire des duplications à l'infini. Voilà, vous faites copier-coller, clac-clac, les choses se dupliquent en une fraction de seconde, en autant d'exemplaires que vous le souhaitez. Des questions d'annulation, c'est-à-dire que quelque chose s'est fait, vous pouvez faire un simple clic, la chose vous pouvez l'annuler. Enfin, c'est toute la différence entre le fait d'écrire sur une vieille machine à écrire et puis d'écrire sur un clavier, quoi. Donc, sur la machine à écrire, vous aviez directement l'encre sur votre papier et du coup, si vous deviez refaire la feuille, vous étiez obligé de tout refaire. Là, voilà, vous effacez comme vous voulez ce que vous pouvez. Il y a la question je me retrouve avec un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave, ça va m'en venir. Ce qui me semble particulièrement important, en tout cas dans la question de l'environnement numérique, c'est que ce sont des environnements qui sont paramétrés par quelqu'un d'autre au départ. Donc ce sont d'une certaine manière, on se retrouve, c'est vrai, même dans le monde réel, au départ, on pense le monde avec les outils qui nous sont dont on hérite de manière culturelle, etc., qui nous permettent de découper le monde d'une certaine manière, et puis dans une autre culture, on le découpe avec certaines nuances, c'est pas forcément exactement la même chose. Mais dans la question de l'environnement numérique, ben c'est vrai qu'on pénètre dans des univers qui ont été paramétrés par d'autres gens, des gens qui peuvent avoir d'ailleurs des intentions. Ce qui fait que ben, si vous êtes sur Twitter, par exemple, ben sur Twitter, vous êtes limité à 140 caractères. Si vous en voulez en faire 150, vous ne pouvez pas, quoi. Enfin, il va falloir faire un deuxième message. C'est un petit exemple un peu bête, un peu trivial pour vous montrer, illustrer ce propos-là. Mais la question, c'est quand j'utilise un objet, finalement, je m'inscris quand même dans le désir et dans le paramétrage de celui qui l'a élaboré. Et donc dans ces, on s'inscrit donc dans ces intentions-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, de la même manière que si vous jouez à un jeu vidéo, vous pouvez, même quand on fait des jeux qui sont extrêmement sophistiqués, etc., vous pouvez quand même pas faire des choses qui n'ont pas été programmées au départ. Voilà. Bah, typiquement, vous êtes donc dans ces limites-là. Sur la question peut-être des... Parce que là, je me rends compte, c'est bientôt 8 heures, donc je vais évoquer peut-être la question des relations sociales un petit peu sur Internet avant de m'arrêter puis de vous laisser la parole. Relations sociales et puis narcissisme. Finalement, on se rend compte que le monde d'Internet, monde virtuel, donne quand même... certains effets. Donc il y a un effet qui est dû essentiellement d'abord à l'anonymat, c'est qu'on se rend compte que petit à petit il y a une horizontalité des liens quand même qui s'opère, c'est-à-dire que par rapport à une société, je sais pas, très hiérarchisée, qui serait la société de la télévision d'une certaine manière, où c'est la parole vient d'en haut, elle descend. Ce qui fait que on peut se demander si la personne la plus importante c'était pas la personne qui présente le journal de 20h d'une certaine manière, ou en tout cas qui en fait le menu, le programme. Internet, c'est quand même la parole à tout le monde, pour le meilleur et pour le pire probablement. Néanmoins, il y a cette dimension relativement démocratique quand même, où chacun peut s'autoriser à prendre la parole d'une certaine manière sur cet espace-là, qui crée finalement une certaine horizontalité des liens. Je parlais de Twitter. Vous pouvez reprendre un tweet ou vous adresser à quelqu'un de connu, y compris de manière un peu triviale, etc., même si derrière, ça, c'est pas forcément la personne en question qui gère le compte, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais enfin, dans l'esprit, il y a quand même une certaine égalité dans la prise de parole, puisque n'importe qui a une connexion est en mesure de pouvoir s'exprimer, même si n'importe qui ne dispose pas des objets pour pouvoir censurer certaines choses aussi. Ce qui ressort aussi des relations sociales sur Internet, c'est quand même un contrôle social qui est moindre et un sentiment d'impunité, globalement. Ça va avec l'anonymat, mais on se rend compte que suffit de regarder n'importe quel forum, le ton monte très très vite entre les gens, ils se comportent souvent de manière... Ils se comporteraient pas forcément de la même manière dans la vie réelle. Voilà. Les choses peuvent aller assez vite. On peut interpeller un inconnu comme ça en disant mais qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries, ce genre de choses. Alors que, voilà, il y a l'impression que toutes les convenances sociales, les règles un peu de sociabilité, tout ça, elles sont souvent mises entre parenthèses, et c'est le fameux phénomène des ce qu'on appelle les trolls dans le jargon internet, le trolling, donc ces gens qui, pour se donner un rôle, vont prendre un malin plaisir à faire de la provocation, à faire dégénérer n'importe quelle conversation. C'est un phénomène qui est quasi inhérent. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communautés internet qui échappent à cette dimension-là. Et puis donc pour les sujets, il y a la question de l'affirmation et de un peu de la quête narcissique. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'inscrivent comme ça pour avoir des retours sur ce qu'ils proposent à la vue d'une forme de public. Des gens qui sont comme souvent en quête de réassurance, qu'on leur dise ce que tu fais est bien, même s'il y a beaucoup de trolls qui du coup vont prendre le contre-pied pour faire dégénérer les situations. Alors c'est des choses qu'on retrouve un peu à tous les niveaux, donc des gens qui vont avoir leur petite marotte, leur petit combat personnel, un tel qui va, qui a utilisé son compte Facebook comme un militant anti-corrida ou quelque chose comme ça, ou des gens qui sont dans des affirmations identitaires, dans toutes sortes de choses. Ça permet à plein de gens comme ça de se positionner dans une espèce d'environnement social parallèle qui est quand même pas complètement coupé du monde réel, mais enfin ça permet l'abri d'un pseudo, d'un avatar, ces petites photos que les gens utilisent pour s'illustrer, se représenter. Et donc je parlais de questions politiques, choses comme ça, mais ça va aussi pour des questions artistiques où il suffit d'aller sur les chaînes YouTube, etc., où n'importe qui finalement s'enregistre en train de chanter ou en train de faire des choses comme ça. C'est des phénomènes qui ont été enrichis et qui font retour et qui contaminent également les programmes de télévision finalement, parce que la question de l'écrasement, de l'horizontalité des liens, finalement l'écrasement, même si c'est très discutable quand même, d'une certaine hiérarchie sociale, c'est aussi les phénomènes de télé-réalité, finalement où les spectateurs passent de l'autre côté de l'autre côté de la caméra. Tout ça pour dire qu'il y a une dimension de quête narcissique qui se retrouve finalement un peu à tous les étages sur Internet, avec des gens qui développent quand même des propos construits politiques, même s'il y a aussi une dimension narcissique à se produire en public et à attendre un retour. Mais on pourrait dire la même chose de ce que je fais en ce moment. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui, dans cette quête d'idéal, finalement, je parlais de culte de la performance, d'épanouissement personnel, il y a beaucoup de gens qui utilisent finalement la plateforme Internet pour essayer d'être quelqu'un, ou en tout cas de se sentir un peu plus puissant, un peu plus valorisé qu'ils ne peuvent l'être dans l'espace social classique, et qui du coup ont un espèce de nouveau terrain de jeu où ils peuvent remettre un petit peu les pendules à zéro et puis les compteurs à zéro et puis essayer d'être quelqu'un à cet endroit-là, même si c'est un espace qui est quand même soumis à des phénomènes de mode qui passent très rapidement, etc. Bon, je me rends compte qu'on va arriver sur 8 heures, donc pour conclure mon propos, puis avant de vous donner la parole, mon propos consiste finalement à montrer que l'environnement technique et numérique finalement être une extension de l'environnement social et des valeurs évidemment qu'il véhicule. Alors, en termes symboliques sur Internet, ce qui est assez logique, mais également dans certaines dimensions de technicité propre qui fait qu'on, de la même manière qu'on est. On est flatté beaucoup du côté de notre archaïsme, d'une certaine manière. On est globalement quand même plus convoqué du côté de notre oralité première que du côté de notre espace secondaire, nos processus de pensée élaborés, de notre intelligence, pour parler relativement simplement. Et donc que cet outil et tous les objets qui l'accompagnent ont aussi l'air de rien, un certain nombre d'effets sur la construction psychique, la manière dont on se représente le monde, la place qu'on y occupe, etc., etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser la parole. Voilà. Merci Daniel. Allez-y, j'écoute. Essayez de parler un peu plus fort, je ne vous entends pas très bien.
Vous parliez que YouTube permet
ouais.
À des personnes qui se demandent de s'exprimer, mais s'ils ne leur importaient normalement.
Ouais.
Et pour autres, est-ce que ça permet vous juste simplement de travailler des talents, des nouvelles méthodes d'apprentissage? Parce que,
vous dites que... c'est un usage parmi d'autres. Hein.
Ouais, ça... Ma question est dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que ça peut aider ou vous voyez plus comme un côté négatif à ça?
Je crois que dans tout outil, il y a les deux revers de la médaille. Il y a des gens que ça va probablement aider parce que. Je sais pas, imaginons quelqu'un qui a une timidité maladive, qui oserait pas se produire, et puis qui se hasarde à, je sais pas, s'enregistrer, et puis il a des retours positifs, etc. Ben, ça va sûrement narcissiquement lui faire du bien, et du coup, lui donner un peu confiance. Je pense que, à côté de ça, il y a aussi des gens, enfin, c'est ce qu'on voit dans tous les télécrochets où il y a les candidats sérieux, puis il y a les candidats qui sont les casseroles qu'on regarde ou qui sont diffusés pour que tout le monde se marre, quoi. Et je pense que ça, c'est des situations où le narcissiquement, sauf si les personnes l'ont fait consciemment pour rigoler, pour pouvoir passer à la télé et se marrer un bon coup, c'est une chose. Des gens qui venaient pour essayer d'avoir une réassurance psychique narcissique et puis qui se retrouve la risée de tout le monde, ça peut avoir des effets négatifs à cet endroit-là, mais je pense que les outils ne sont pas positifs ou négatifs, ils peuvent avoir les effets les deux effets en fonction des situations, tout dépend. Enfin. Alors, qui veut prendre la parole?
Justement, dans la lignée de cette question, quelle est la balance? Est-ce que finalement ce monde numérique qui s'est développé crée plus d'intelligence ou détruit plus d'intelligence?
Les deux, je ne sais pas. Est-ce que ça détruit plus d'intelligence ou est-ce que ça en apporte plus? D'une certaine manière. Il faut quand même dire que ça permet de regrouper un certain nombre de connaissances et de savoirs à un même endroit qui sont accessibles à tous. Enfin, on peut être très négatif sur le niveau de l'enseignement, etc. N'empêche que aujourd'hui, le niveau général est quand même autrement plus élevé qu'il y a un siècle. Hein. Où il y avait un nombre d'illettrés important. Enfin, donc, je pense qu'il faut, aussi raison garder sur l'ignorance et la bêtise supposée de l'époque, qui est très présente, qu'on voit beaucoup, sûrement, mais qui, voilà, je pense que celle d'un siècle, elle a laissé moins de traces, quoi, sur tout ça, mais...
Désintérêt pour la réalité parfois. Parce que là, vous parlez d'un petit soleil qu'on va prendre en photo. Dans un groupe qui est présent, le seul objectif, ça va être de prendre en photo le coucher de soleil plutôt que de le partager avec le groupe qui va être présent.
Et oui, ça.
Je trouve que ce déséquilibre est de plus en plus fort.
C'est un rapport là.
Est-ce qu'on ne va pas aller de plus en plus vers ça? Parce que là, je rejoins un peu la remarque de madame. Il n'y a pas de positif ou de négatif, vraiment, il y a peut-être un équilibre.
Disons que c'est un redéploiement différent des relations sociales, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en lien avec son voisin, avec même les gens parfois qui sont à notre table, on est sur notre téléphone à pied noté avec quelqu'un d'autre, on est quand même en lien avec quelqu'un d'autre.
Ah.
Est-ce que c'est pas de la vraie communication aussi de... Je sais pas. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça. C'est ce que je disais.
La communication est moins profonde, et peut-être via numérique.
Ben, peut-être, oui, peut-être. Encore que. Ça dépend. Selfie, oui.
L'idée de se mettre en scène à tout moment, à tout moment, de savoir comment votre réflexion s'articule autour de ce nouveau phénomène hein, qui prend de l'expansion de façon exponentielle, comme dans tout le monde.
C'est un phénomène de. Oui, c'est une forme de signature finalement. Que ces nouveaux outils permettent. Enfin, c'est vrai que d'une certaine manière, il faut peut-être mieux se prendre en selfie devant, la pyramide de Khéops plutôt qu'essayer de la graver et dire que je suis passé, quoi. D'une certaine manière. Mais d'une certaine manière, oui, il y a un côté très narcissique à vouloir aussi s'exposer comme ça au monde entier, parce que finalement, le selfie, on le fait pour le montrer aux autres, on le fait pas juste pour soi. Oui, ben on attend, oh là là, t'es à tel endroit, quelle chance, etc. Oui, non, mais c'est une manière aussi de mettre aussi les autres dans des positions envieuses, en disant, quelle chance tu peux avoir d'être à tel endroit alors que moi je suis chez moi. Bon, c'est des choses qui sont... mais d'une certaine manière, ça signe quand même aussi un manque de confiance en soi, un manque à être presque pour, se réfugier dans ce genre d'artifice pour se sentir exister ou en tout cas pour se sentir investi par la communauté d'une certaine manière. Dans le sens où c'est une trace qui est laissée, c'est vrai que l'autographe en lui-même n'a aucun intérêt, mais si ce n'est qu'on ça peut être rapproché, si ce n'est qu'on se retrouve dans la position d'être soi-même la star, quoi. Enfin, on retrouve un peu ce que disait Andy Warhol, 15 minutes de célébrité pour tout le monde. Bon, il y a le côté je m'exhibe aux yeux du monde entier de cette manière-là. Mais bon, c'est un phénomène de mode qui passera sûrement aussi. Enfin,
Moi, je souhaitais dire que on n'est pas parlé de
des insultes qui viennent très très rapidement, les insultes et les agressions.
Sur Internet ?
Qui viennent très très rapidement dans tous les commentaires sur Internet. Que ce soit. Là, je veux dire, c'est une chose qui, pour moi, apparaît de façon très négative et en plus de ça, qui par. Donc on sait que Twitter, c'est la Californie, hein, ça vient de Californie, Twitter. Donc quand on veut faire disparaître quelque chose sur Twitter, il faut s'adresser à la Californie. Hein. Donc il y avait justement une émission très intéressante, je crois que c'était sur Arte Dimanche, qui parlait de ce qui se passait justement. C'était une femme qui avait fait un film et qui avait donc été menacée. Elle avait reçu une menace de viol et elle avait reçu des insultes, etc. Et elle avait donc commencé par porter plainte et elle voulait donc, par rapport à ça, on voit dans l'émission toute sa démarche, la difficulté qu'elle a eue pour donc arriver à la personne qu'il avait donc insulté, qu'il avait menacé de viol, etc. Donc, il y a une certaine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une certaine impunité. C'est lié, c'est directement lié, je veux dire qu'au niveau des, donc au niveau des relations sociales, on peut dire que ça dégrade les relations sociales à ce niveau-là. Par la mesure,
oui.
Cette personne qui lui avait envoyé ce tweet, eh bien, c'était une personne qui semblait ne se distinguer en rien, je veux dire, qui n'aurait jamais, dans la vie courante, ne se serait jamais manifestée de cette façon-là, par son environnement familial. C'était une personne assez, on pourrait dire, effacée, mais enfin, qui n'aurait jamais eu ses propos, n'aurait jamais tenu ses propos dans son environnement familial ou même social. Donc une personne qui s'était dépassée, donc là, qui s'était lâchée par ce tweet. Hein. Donc, alors là, ce qui est ennuyeux, c'est que, donc, avec les difficultés, puisqu'il y a, bon, c'était du journaliste, d'accord, parce qu'on a une journaliste, hein, une journaliste féministe, enfin, etc. Mais il y a d'autres exemples, il y a des femmes, des femmes politiques ou autres, qui reçoivent un nombre considérable d'insultes. Ça paraît tout à fait
mais normal. Ça se banalise.
Ça entraîne quelque chose, même, c'est un mouvement de fond, même dans la société, quoi, je veux dire. À la limite, quand j'entends un coach sportif qui dit « Ah, mais si vous voulez, vous pouvez l'insulter, hein, je vous fais insulter tous les jours. » Donc, ça veut dire que ça entraîne quand même quelque chose qui, à mon avis personnel, donc, est plutôt négatif, parce que bon, personne n'aime se faire insulter.
Oui, mais c'est ce que j'évoquais avec la question du contrôle social. C'est-à-dire qu'il y a, il y a en effet un sentiment d'impunité, parce que c'est finalement c'est toujours plus facile de s'adresser à quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui est pas là. Voilà, d'une certaine manière, mais c'est ce que j'évoquais, les phénomènes des trolls, etc. Enfin, c'est typiquement ça, des gens qui se permettent des choses. Mais c'est vrai qu'on, ce qu'on remarque, c'est que, enfin, l'agressivité sociale est très présente de toute façon. Mais il y a des gens finalement qui ont un sentiment d'impunité puissance sur Internet. De la même manière, on peut faire un parallèle avec les gens qui sont addicts aux jeux vidéo, parce que dans tel jeu, ils incarnent un personnage super puissant, etc., qui est à l'opposé de peut-être de ce qu'ils sont dans la vie réelle, et du coup, bah, ils sont accros à leurs jeux vidéo, et puis ils décrochent pas, ils jouent tous les jours, ils jouent toute la nuit. Ils font plus que ça parce que finalement ils ont trouvé un espace où ils se sentent plus dignes d'intérêt, plus puissants, plus reconnus qu'être le voisin du quatrième que tout le monde ignore, quoi. Enfin, voilà. Ok.
On perd le lien réel qu'il y a entre les gens. Et dans cet arrondissement, il y a une association qui s'appelle Commune, où les jeunes, les gens se retrouvent vraiment en fait entre eux. Ils ne jouent pas derrière l'ordinateur, ils se retrouvent dans une salle et ils font des jeux de rôle, mais ensemble.
Ouais.
Et ils n'ont pas perdu ce lien. Dommage du coup quand on est derrière son ordinateur, on est tout seul. Et des fois, je suis humain parce qu'il y a des gens de qui sont seuls et anonymes derrière leur écran. Et ils disent,
oui, mais c'est toute leur frustration, leur agressivité qui vient s'exprimer à cet endroit-là.
Et eux, ils se retrouvent vraiment, et enfin, je trouve chouette à l'époque, on dit de pouvoir dire, ben, on va jouer comme si on était sur un ordinateur, mais se retrouver pour de vrai et jouer avec des amis de jeu. Et...
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Oui, voilà, donc. Par rapport à globalement le thème, quand vous dites Internet, c'est un objet, moi c'est un petit peu vaste. Par exemple, moi je suis cadre dans une grande entreprise, bon, pour nous Internet c'est fondement un peu de l'entreprise, c'est-à-dire c'est peut-être un peu plus qu'un objet, etc. Donc là, la thématique était peut-être plus précise, donc c'était les addictions aux réseaux sociaux, éventuellement les addictions aux.
Oui, mais c'est vrai que je parlais de l'Internet loisir, moi, surtout.
Oui, vraiment, ouais. Et, voilà, un petit peu dans la définition, un peu méthodologique, là. Et donc, sinon, pour amender mon enfant, et faire une remarque, lui, quelle est la spécificité de ses activités, finalement, d'être seul, et c'est aussi d'avoir un certain nombre de sens qui sont mobilisés de façon interactive, comme la vue, éventuellement, lui, mais il y a un certain nombre de sens, de rapports au corps qui sont chantés, comme par exemple le mouvement, le toucher, le goût, éventuellement le fait aussi de regarder un visage. Et donc du coup, en termes thérapeutiques, c'est une question de plus.
Oui, je vous écoute.
Est-ce que les thérapies découvertes de l'activité liée au corps, je pense à la danse, au théâtre, à des jeux de société, éventuellement fait en groupe, etc., peuvent être des thérapies intéressantes pour traiter éventuellement les
addictions. Oui, oui, tout à fait. C'est, ça, globalement, ce sont. Ce sont souvent des prises en charge globales qui sont proposées avec une dimension de socialisation par la parole, avec souvent des groupes et puis des entretiens individuels, mais il y a aussi souvent des groupes thérapeutiques avec des médiations. Ça peut faire appel au corps. C'est vrai que c'est aussi intéressant de remettre peut-être en jeu quelque chose qui est court-circuité finalement par l'activité. Quand on est coincé derrière son écran, oui, c'est une manière aussi de court-circuiter le corps, ou alors de le mettre en mouvement d'une manière différente, parce que c'est vrai que j'ai quelque chose que j'ai pas du tout évoqué, mais c'est vrai que l'activité la plus importante sur Internet, c'est le porno quand même. Et du coup, ça, oui, voilà, à cet endroit-là, le corps est remis en mouvement, mais dans quelque chose de, voilà, d'auto-érotique, on n'est pas dans un rapport à l'autre, finalement. C'est une espèce de sensation qui peut se rapprocher quand c'est quelque chose d'hyper fréquent, hyper répété, etc., d'une forme d'addiction, de la même manière qu'il y a des gens qui sont addicts, je sais pas moi, au sport, par exemple, qui font du sport tout le temps, qui peuvent pas s'en passer, parce qu'ils ont besoin que leur cerveau sécrète les endorphines, leur shoot d'endorphines quotidien, d'une certaine manière. Bon, bah là, on peut être un petit peu sous une forme différente dans ce genre de problématiques qui viennent se poser, tout en se combinant avec des phobies sociales, des phobies de l'autre, qui fait qu'on va... voilà, je pense que les gens qui sont là-dedans, ils font ça parce qu'ils peuvent pas faire autre chose aussi. Enfin, voilà.
J'aimerais revenir sur
l'écriture était pas inventée, mais de plus en plus démocratisée, a été laissée des avantages très nobles. Est-ce que de nos jours, où le cyberespace prend énormément de place, ne plus participer à cette communauté Internet, ça pourrait devenir une nouvelle lettrice?
D'être coupé du réseau, ouais. C'est prendre un peu le problème à rebours, c'est intéressant aussi. Je veux dire, tout dépend aussi de l'usage qu'on ait fait, parce que l'essentiel des gens utilisent Internet, c'est un usage ludique, c'est du loisir. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises, etc., qui utilisent ça comme un outil de travail, évidemment. Mais bon, dans le quotidien, c'est quelque chose qui sert quand même beaucoup pour s'amuser de différentes façons. Après, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les digital natives, ceux qui sont nés là-dedans. Finalement, qui se retrouvent avec des écrans dans les mains dès l'âge de 4 ans, même avant, qui du coup, ça fait partie de leur univers de façon fondamentale, quoi, d'une certaine manière. C'est pas comme, les générations un peu plus âgées où il y a un apprentissage qui a dû se faire parce qu'on a vécu avant, le fait que ça se répande à ce point-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'enfants, finalement, lesquels les écrans, les jeux vidéo, Internet, etc., ils sont très très à l'aise là-dessus. Ça fait partie de leur univers normal, quoi. Enfin, de la même manière que, il y a peut-être une époque où... on pourrait dire que les gens, qui ont appris à écrire à l'école, c'était quelque chose de normal, alors que pour la génération d'avant, c'était quelque chose qui était un privilège. Non, il y a sûrement eu, dans quelques temps, si le phénomène ne se réduit pas, il n'y a pas tellement de raison, ça deviendra probablement un handicap social, parce qu'on se retrouve coupé d'un groupe. C'est vrai qu'il y a plein de gens comme ça qui communiquent maintenant essentiellement via des réseaux sociaux, etc. Si on supprime l'email, les réseaux sociaux, etc., il restera peut-être plus grand chose finalement pour communiquer en dehors du contact réel. C'est vrai que c'est une perte d'une certaine manière, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais souvent, c'est aussi des moyens pour les gens de se remettre en relation pour pouvoir se voir. Enfin, il y a des gens qui sont uniquement dans ce mode de relation. Mais c'est comme toujours en psychologie clinique, on s'attarde sur les cas pathologiques. La plupart des gens utilisent ces outils-là pour se mettre en lien dans la réalité aussi. Enfin, et pour élargir également leur potentiel de rencontre. Ouais, pour tout et n'importe quoi. Enfin...
Mais quand les réseaux sociaux sont utilisés pour donner rendez-vous pour des événements, c'est intéressant, mais après vous parliez de la problématique tout à l'heure, les enfants n'ont pas forcément le recul et le discernement pour savoir ce qui peut être bon ou mauvais pour eux. Et il y a des enfants hyper jeunes à l'école primaire. J'imagine que les parents, soit ils fuient complètement leurs enfants et du coup c'est malsain, soit ils les laissent complètement fermés et du coup ils se mettent en danger. Enfin, la question est difficile et ils disent que, si on est coupé d'internet ou d'un usage quotidien, quand on est enfant, on va être complètement largué et qu'on ne sera pas dans les réseaux des autres enfants qui sont complètement absents.
C'est un peu dommage que tous les enfants passent par
ça et qu'ils se mettent en danger et c'est pas forcément, ça fait un peu un engrenage où, si on est dedans, on risque d'être à la télé quelque part.
Oui, non, mais c'est...
J'avais utilisé ce mot, mais on risque de rentrer dans quelque chose de malsain et si on n'y est pas, on risque d'être exclu.
Oui, c'est toute la difficulté est peut-être de trouver le point d'équilibre entre ces deux situations où on peut faire partie du réseau, mais on va le faire encadrer par ses parents qui vont quand même avoir un œil sur ce que l'enfant fait quand il va sur un ordinateur. Enfin, je pense que comme conseil éducatif, on peut quand même donner qu'un enfant de moins de 12 ans de quand même toujours avoir un œil sur ce qu'il fait, enfin à la limite de même pas le laisser surfer tout seul sur Internet, faut quand même toujours être à côté pour. Je crois, oui. Mais n'empêche que c'est des situations. Tout à fait. Mais disons que le contrôle parental. Tout à fait, mais ce que vous disiez sur les logiciels de contrôle, enfin, ça vient quand même se poser la question de savoir ce qu'on peut déléguer, quoi. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se déléguer un logiciel, ou est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut quand même être présent pour expliquer en temps réel ce qui se passe, parce que je pense que Internet, ça nécessite quand même un apprentissage. Faut pas non plus être livré à cette ce qui peut être une jungle à certains égards. Là dans mon travail, j'ai rencontré des situations qui sont complètement en illustration de ces problématiques là. Par exemple, il y a un jeu par exemple qui en principe est interdit au moins de 18 ans ou au moins de 16 ans, je sais pas, le fameux GTA 1 2 3 4 5, enfin ces jeux où on incarne un bandit qui va commettre des crimes, trafiquer de la drogue, la prostitution, enfin toutes sortes de trucs, avec un souci de réalisme le plus criant possible. Donc, on se retrouve avec des gens alors il y a peut-être des gens qui du coup tout ce qui s'autorise pas dans la vie réelle, ben ils peuvent jouer à ça pour pouvoir incarner le bandit que leur toute puissance infantile aurait aimé qu'il devienne. Mais il y a aussi parfois ces jeux qui échappent à la vigilance parentale, ou voilà, des gens qui sont pas forcément très vigilants, concernés par ça, et puis du coup on se retrouve avec des enfants de 10 ans voire moins qui jouent à des jeux comme ça. Bon, ça pose question. C'est un autre exemple qui pour illustrer la question de ce qu'on peut déléguer à la technologie, à des machines, où est-ce que ça s'arrête. Là, dans mon travail, on a été confronté à une situation qui était assez inédite. Des enfants qui étaient laissés tout seuls chez eux, surveillés par caméra vidéo. Voilà. Donc la vidéosurveillance à domicile, avec les parents au travail qui ont une petite fenêtre sur l'écran d'ordinateur et puis qui regardent comment ça se passe. Bon, ça donnait lieu à un signalement, évidemment. Mais ça pose question de savoir ce qu'on. On crée beaucoup d'objets, d'outils, etc., qui peuvent être intéressants, mais après, l'action, c'est l'usage qu'on en fait, et puis à partir de quand l'usage pose vraiment question pour qu'on puisse le remettre en cause, quoi, parce que. Un enfant de 8 ans, on ne laisse pas tout seul à domicile, surveillé par une caméra. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de. Je sais bien qu'on a de plus en plus à l'ère de la vidéosurveillance, etc. Mais enfin, quand même, il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être revoir.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'espèce de puissance que donne. Par la vitesse, par l'immédiateté, par l'impunité.
est-ce que ça ne serait pas aussi un chemin par rapport aux adultes? Alors, on ne parle plus des enfants, là, mais vers une espèce d'infantilisation. Moi, ce n'est pas tellement le reproche de c'était mieux avant, on s'entendait vachement mieux avant, parce que ça, je pense que c'est complètement légendaire. C'est plutôt le fait d'avoir tout de suite, d'avoir les réponses tout de suite, de se connecter tout de suite.
Oui, mais ça nous met dans une situation de réagation.
On a développé chez tous les adultes une espèce de, effectivement, d'infantilisation. Par exemple, ce que tu viens de dire sur la vidéosurveillance, sur la vidéosurveillance d'enfants, ça va dans le sens de parents qui ont surtout envie d'être bien tranquilles et de ne plus avoir ni de nounou à payer, ni de contraintes personnelles, et qui donc remplacent par les machines quelque chose qui est de l'ordre du... Donc c'est bien de la toute-puissance aussi, c'est-à-dire je veux, moi, mon confort personnel. Est-ce que c'est pas ça qui est un peu la menace la plus importante du net et du numérique?
Oui, c'est ce que je décrivais, qu'on vient nous convoquer à cet endroit-là, finalement, qui est assez archaïque de notre fonctionnement psychique, et qui est quand même toujours un peu encouragé. Mais moi, une des questions que je peux me poser, quand même, c'est à force de créer, finalement, ces conditions-là, de créer un peu des individus qui sont quand même sur le mode de la consommation, de la réalisation immédiate de tous les désirs, ou presque, qu'est-ce qui se passe le jour où le robinet se ferme? Qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a plus trop de pétrole? Qu'est-ce qui se passe le jour où ça ne marche plus, où le système commence à péricliter? Voilà, ce qu'il faut.
C'est une nouvelle maladie psychique, en fait, les gens... Mon copain, il ne répond plus à mes SMS, il ne plus. Voilà, il peut y avoir, en fait, ça va déclencher des choses plus rapidement, non?
Oui, mais de toute façon, ces états d'impuissance, toute puissance que je décrivais, ça se combine également avec des états de très archaïques qui viennent s'accompagner souvent de moments de rage, quoi. Enfin, on a tous l'image de la personne excédée par son ordinateur qui fracasse tout, quoi. C'est un petit peu voilà. Est-ce qu'il peut pas se passer quelque chose de cet ordre-là à grande échelle, si la machine vient à se gripper, quoi? Enfin, c'est quand même une vraie question, je crois. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont des vrais professionnels du net, des pionniers de très longue date, finalement, qui vont considérer que l'usage que monsieur, madame, tout le monde fait d'Internet, c'est un usage de débutant, c'est un usage ça va durer un temps, et puis peut-être qu'il y aura un niveau de conscience un peu supérieur qui va pouvoir se développer, et avec un usage un peu plus intéressant et un peu plus réfléchi de ces outils qui ont quand même une puissance tout à fait importante et tout à fait intéressante. La question, c'est de savoir est-ce que ce cap va pouvoir se franchir ou pas. Enfin, ça, l'avenir le dira, c'est difficile à prévoir. Mais c'est vrai que quand on nous convoque uniquement du côté de la régression, c'est quand même quelque chose de... je pense que ça passe quand même par un modèle de société qui change un petit peu, parce que si on est toujours sur ce modèle-là, ça me paraît difficile qu'on soit qu'au moment où on se connecte sur Internet, on change le fonctionnement qu'on a quand même beaucoup à côté, parce que c'est quelque chose qui se retrouve bien au-delà d'Internet, hein, finalement, ces questions de frustration, etc. Hein.
Je vais continuer sur le point de madame Justine. là, sachant que la moyenne des gens à un degré de la pornographie pour la première fois est d'environ 10 ans, cela depuis quoi de détruire pas la liberté de sa propre personne, son sort, son réservoir de pulsion qui est naturel, pour pas changer un peu la gamme de ce qu'on était avant cette génération-là.
Bah disons que ça. Quel est l'effet que provoque la visualisation de telles images de façon précoce? Je pense qu'on pourra peut-être faire des études statistiques dans quelques années, parce que l'air de rien, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants ou de jeunes adolescents qui sont confrontés. Je pense que c'est quelque chose qui s'est quand même bien banalisé, ce qui est sûrement dommage. Mais ça... Donc, alors là, je veux dire, j'ai pas forcément d'éléments très très. C'est peut-être plus une intuition qu'autre chose, mais j'ai quand même le sentiment que c'est ce que ça peut provoquer finalement, c'est un sentiment de non. C'est un côté traumatique d'une certaine manière, et puis en même temps. Il y a un côté jamais assez, quoi. C'est-à-dire que ça peut pousser éventuellement les gens à vouloir toujours plus, toujours plus loin, parce qu'ils se retrouvent confrontés à des situations impensables d'une certaine manière, même si bon, on peut se dire aussi qu'on a quelques prédispositions génétiques qui peuvent un peu nous aider par rapport à ça, parce qu'on est des êtres asexués. Néanmoins, c'est vrai que c'est des questions qui se posent, mais qui vont se poser de manière assez importante. Mais je me méfie quand même de cette idée que la visualisation d'une image comme ça est quelque chose de, je veux dire, qui cause des dommages irréversibles d'une certaine manière. Je pense que ça peut quand même se parler, s'expliquer, se
améliorer. Ça cause bien des dommages irréversibles.
Oui, non, c'est pas la même chose. Et puis de toute façon, a priori, il passe pas de porno sur TF1. C'est vrai, ce qui veut dire qu'il y a des gens pour qui la télé est allumée toute la journée, bien sûr. Mais oui, mais c'est vrai que ce que je disais, c'est que la télé, c'est un média qu'on reçoit de façon assez passive, même si voilà, de plus en plus, ils essaient de nous faire répondre à des questions, je sais pas quoi. Enfin, mais globalement, c'est quelque chose où on reçoit un message, et puis de toute façon c'est un média qui est élaboré parce qu'il a déjà 50, 60 ans d'existence et du coup bah il a déjà été vraiment pensé pour pouvoir faire le plus de fric possible, parce que c'est quand même le but, donc mettre des pages de pub à des moments stratégiques avec toutes sortes d'astuces etc. Internet, j'allais dire, elle se mérite peut-être de nous mettre plus dans une position active où on peut surfer de manière un peu passive aussi, mais enfin globalement, on choisit un peu où on va, on peut se diriger, on peut réagir. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même pas tout à fait du même registre et du même ordre, même si bon ben on peut aussi être complètement baladé d'un espace à l'autre, et puis on peut aussi être confronté sur Internet à des messages, des situations comme ça qui peuvent poser question, même si sur la télé il y a aussi essentiellement ça de toute façon. Mais oui, ça s'inscrit dans un contexte plus global où globalement les situations de frustration sont très très mal vécues, de moins en moins tolérées, oui, mais bien sûr. Et la couche culotte. Disons qu'il y a quand même souvent des mécanismes de régulation, mais si ce n'est que bon, bah, quand on est arrêté à un endroit, on va recommencer ailleurs. C'est souvent un peu comme ça que ça se passe. Mais de là à dire qu'il n'y a absolument aucune. Mais
on pourra toujours assouvir cette pulsion ailleurs, et puis une fois que c'est ailleurs,
on va. Oui, bien sûr, mais de toute façon, la question de la frustration, etc., ça me fait penser à un autre sujet qui est très présent par rapport à ces enjeux-là. C'est les questions de téléchargement, par exemple. C'est-à-dire, à une époque où il fallait se trouver un disquaire, etc., pour se trouver de la musique. Aujourd'hui, en deux clics, le truc, il est à la maison et il n'y a même plus besoin de le payer. Ça s'inscrit, finalement, dans ce climat, quoi, d'une certaine manière. Bah, de toute façon, un narcissisme, on en a tous un, déjà, parce qu'on a tous une représentation de soi-même, plus ou moins bonne, plus ou moins défaillante, plus ou moins grandiose pour certains. Moi, je pense que ça passe d'abord par une certaine. Je pense pas que ce soit Internet qui fabrique le narcissisme. Je pense que les potentialités sont déjà présentes. Ça vient d'abord du fait que vous avez eu des parents qui vous ont trouvé le plus beau, le plus fort, qui a toujours raison, à qui on refuse rien. Enfin, l'enfant gâté par excellence. Typiquement, ça peut créer une forme de narcissisme, par exemple. Même si ça peut se décliner de plein des manières, mais le narcissisme, on a souvent la représentation un peu négative de ce terme-là, mais parce qu'on a l'idée de quelqu'un qui a un but de sa personne. Narcissisme, c'est aussi positif, c'est quelqu'un qui a su une suffisamment bonne image de lui, et qui du coup vit suffisamment bien et suffisamment bien dans ses baskets. Le narcissisme au départ c'est surtout ça. Après il y a des phénomènes, on parle de moi grandiose, donc des gens qui sont complètement dans l'inflation du moi, qui sont un peu des qui sont fous d'eux-mêmes, hein, d'une certaine manière. En effet, c'est vrai que des gens qui sont dans des situations où on leur renverrait sur Internet quelque chose, mais je pense qu'il faut quand même que ça se redouble un peu dans la réalité, d'une certaine manière. Parce qu'on peut être une star du net, si on rase les murs quand on se balade le reste du temps, je pense que ça, ça compense, quoi, d'une certaine manière, un petit peu. Par contre, les gens qui, pour des raisons X ou Y, sont devenus des vedettes du rock, du foot ou je sais pas quoi, là, on voit des phénomènes de gens qui perdent un peu contact avec la réalité parce qu'en plus de l'image, de l'amour de tous, ils ont aussi l'argent facile, ils se retrouvent dans une position d'un peu toute puissance infantile où... ils ont tellement tout que la moindre mini frustration ça crée les fameuses caprices de star, caprices de diva, enfin voilà.
Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, on achète une nouvelle voiture, on se prend en photo avec cette nouvelle voiture. Avant, c'était pas la peine de se prendre en photo dans le quartier. Les gens de notre rue voyaient qu'on avait une nouvelle voiture. Il y en avait une dizaine, c'était au courant, au moins. Là, maintenant, on la sent sur Facebook, allez, allez, les gens vont savoir qu'on a acheté une nouvelle voiture.
Ouais, mais c'est parce qu'on le veut bien. Personne ne nous oblige à le faire. Sur le pouvoir, en dehors du CSA, il n'y a pas grand chose, hein, à mon avis.
On ne peut pas protéger les gens tout le temps. On est déjà dans une société hyper-productrice, on dit d'être en consommé pas, faites pas ci, mangez pas ça, parce qu'on est consommé très vite, on ne mange plus, on ne peut plus, on ne voit plus, on ne respire plus. Donc l'Internet, c'est quand même quelque chose qui n'est pas que négatif, on a bien vu que c'est super positif. C'est à chacun de se prendre en charge. Il faut arrêter de demander toujours à des chefs de nous dire ce qu'il faut faire. Alors, on va mettre des fils dans notre ordinateur, on a déjà suffisamment de fils sur la tête. Je trouve que c'est aux gens de reprendre en main leur vie et non pas d'attendre qu'ils aient un super policiers qui leur disent non, ça tu vas pas, parce que tu
ne sais
pas. Mais il y en a plein, des comités d'éthique avec des interdits de machin, vous voyez bien que tout est franc. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas d'être dépassé, enfin, le téléchargement c'est interdit, mais tout le monde en fait, etc. Mais heureusement aussi qu'il y a cette marge de liberté que tout le monde a de se prendre en charge normalement.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est global, c'est mondial, et ça ne se régule pas comme ça, quoi.
Non, la seule façon, c'est de faire comme en Chine ou en Turquie, c'est
que
Internet,
par moment,
c'est
ça, la Chine. Mais oui, ben, ça...
Un débat aussi par rapport aux enfants, qui est l'accès à Internet des enfants. C'est le premier débat qu'on dit qu'il y a, Et le deuxième débat, c'est les enfants, et là, c'est vrai qu'il y a des logiciels de contrôle parental qui sont importants, ou tout simplement, mais par exemple, les dire textes paramétrés de navigateur lui permettent d'aller, par exemple, que sur une centaine de sites, bon, faut une demi-heure. Moi, je dis ça, mais pour peut-être d'autres personnes, là, j'ai déjà dit du jargon.
Oui, mais déjà, je pense que c'est possible, même si je pense que ces connaissances vont petit à petit se diffuser aussi. Mais bon, ça
globe. Si vous avez fait le logiciel de contrôle parental, soit vous interdisez l'accès à Internet, soit vous avez un accès, vous êtes toujours à côté.
Oui, ben c'est ça, oui. C'est ça. C'est vrai qu'après les... Oui, non, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont très doués pour enlever, désactiver le contrôle parental et puis le remettre soigneusement après. Bah oui. Non, ils sont dégourdis, quoi, c'est bien. Bon, on peut s'arrêter là.
Mon dernier cours demain soir au Carrefour.
Merci à vous.